I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue dans Positron, l'émission où on vous recommande trois trucs cool en à peu près 20 minutes. Je suis Patrick Béja et pour commencer une nouvelle session, il faut évidemment faire les présentations. Vous vous souvenez que la session précédente s'était terminée, on va dire, avec difficulté. J'avais du mal à arriver au bout avec Sophie et Jeff, qui c'était un petit peu laborieux quand même, mais je n'ai aucun doute que cette fois-ci, ça va se passer magnifiquement, bien mieux, considérablement mieux, puisque j'ai d'une part le retour de Marion qui nous revient encore une fois. Comment ça va, Marion ?
Bonjour, ça va très très bien, la forme.
Ouais, oh, écoute, pour un lever à 7h du mat, tu m'as l'air effectivement au moins réveillé, ce qui est déjà pas mal. c'est vrai que moi je suis encore au Japon, donc vous êtes levé très très tôt pour faire l'émission, je vous en remercie tous les deux. Donc Marion, tu nous as préparé des trucs cool, de la musique j'imagine quand même. Parce que Wild Session,
oui, quoi. De la musique, mais justement, je m'amuse à varier un petit peu, donc vous aurez un peu de tout.
Ah, très bien, d'accord. Et je vois que tu commences avec un livre qui est... Bon, je vais pas spoiler, on va voir ce que tu vas nous dire aujourd'hui. Et de l'autre côté, on a Guillaume, qui lui aussi s'est levé après quelques heures de sommeil bien trop courtes. Comment ça va, Guillaume ?
Ça va, super, la pêche.
Pas forcé du tout. Magnifique. Très bien, Guillaume. Bon, certains auditeurs le reconnaîtront du rendez-vous tech. Et je sais que tu as une vie qui est même pas tellement secrète, mais une autre vie en dehors de la tech et des statistiques, qui est peut-être un petit peu surprenante. Et je crois que tu vas nous en parler dans ce premier épisode, n'est-ce pas ?
Ah, oui. Oui. je vais pas spoiler, allez.
Oui, oui, non, on spoil pas, mais on va voir, c'est surprenant, j'ai hâte d'entendre. Oh, merde, j'ai mis un truc, damned. Bon, on va voir. Et moi, je vais donc commencer avec... bon, je rappelle quand même en début de session, dans Positron, on vous recommande trois produits culturels en à peu près 20 minutes, ciné, BD, livres, séries, jeux vidéo, etc., etc. Si vous vous embêtez et que vous savez pas quoi faire ce week-end, on va vous recommander au moins trois trucs super cool que vous pourrez faire, et donc vous n'aurez que l'embarras du choix pour passer un excellent week-end plein de joie et de distraction. Et pour commencer, je vais vous parler d'un film qui est en fait un dessin animé qui date pas d'hier. Ça s'appelle Kiki's Delivery Service. C'est un film animé des studios Ghibli, ou Ghibli plutôt, il faut dire Ghibli. Non, attendez, je me souviens plus.
C'est vrai, oui, c'est moi Ghibli. Je dis toujours Ghibli.
Oui, oui, mais en fait c'est Ghibli en japonais. Donc,
d'accord.
Oui. C'est surprenant, mais c'est bien ça. Et c'est un film qui, comme je le disais, ne date pas d'hier. C'est de 1989. Donc presque 20 ans et oula, attends, 89, mais non, ça fait presque 30 ans. Mon dieu.
Non, arrête, dis pas ça.
Oh là 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 là, c'était l'un de mes films des studios Ghibli préférés en fait. Et c'est évidemment les studios Ghibli, c'est Totoro etc., etc. Et c'est en fait un film qui est peut-être un petit peu moins connu parce qu'il est moins fantaisiste, moins délirant que tous ces autres films de Ghibli, et pourtant il a une sorte de, j'ai une tendresse pour ce film là que je n'ai peut-être pas autant pour d'autres films du même studio. Il y a cette sorte de magie un petit peu rêveuse qu'on retrouve dans les autres films, mais c'est un petit peu plus terre à terre. Et ça sera surprenant d'entendre que c'est un film qui est plus terre à terre qu'on entend le début du sujet, puisque c'est l'histoire d'une petite sorcière qui doit partir de sa maison pour devenir une sorcière indépendante dans une grande ville ailleurs, et donc elle s'en va sur son balai avec son petit chat qui parle, son petit chat noir qui parle, et elle va devenir en fait adulte dans la grande ville. Et en entendant ça, on se dit ouais, sorcière, balai volant, chat noir, machin, ça n'a rien de terre à terre. Et pourtant, c'est sans doute l'un des films de Ghibli qui est les plus vraiment terre à terre. Hein, c'est le meilleur moyen de le dire. Alors il se passe des trucs incroyables, bien sûr, dans son aventure à la petite Kiki, mais c'est quand même la magie est un truc normal dans ce monde-là et personne n'y prête une très grande attention. Et elle est, enfin. C'est une aventure, elle est attachante, la petite, elle est vraiment attachante, et le monde entier qui est décrit, comme souvent dans les films de Ghibli et dans les films d'animation japonais, qui sont un petit peu différents des mangas et des séries télé animées japonais, il y a cette nostalgie européano-japonaise qui en même temps est teintée de cette qualité attachante qu'on retrouve où tout est... Je sais pas, c'est un petit peu nostalgique, un petit peu. C'est difficile à décrire. Je sais pas si vous avez vu Kiki's Delivery oui. Service, ouais. Marion, est-ce que
tu aurais Kiki, un autre moyen de sorcière en
Kiki, français,
la petite
ouais.
sorcière en français, ouais, tout à fait. Oui, je l'ai vu et je trouve que ta description est tout à fait correspond tout à fait au film. En effet, c'est celui qui part moins dans des délires de rêve ou de frontières avec le fantastique. C'est le quotidien de la petite sorcière qui doit prendre ses responsabilités, en fait. Au final, elle doit passer à l'âge adulte. C'est ce que tu disais. Et c'est exactement ça. Et ça a un charme tout particulier.
Ouais, vraiment. Donc, c'est peut-être pas le film que je conseillerais en premier des studios Ghibli. Je dirais que vraiment Totoro ou Chihiro ou ce genre de film où le fantastique a une plus grande place est peut-être plus facile à appréhender et à comprendre. Peut-être pas forcément à comprendre, mais à apprécier parce que c'est un petit peu plus différent. Mais si vous avez aimé ces films-là, je vous recommanderais vraiment Kiki la petite sorcière. Merci pour la traduction. C'est un film que tout le monde peut regarder, mais je l'avais classifié en film pour tous. Mais je crois qu'en fait, je vais le reclassifier en film pour fans parce que je dirais que c'est plus pour ceux qui apprécient déjà les trucs Ghibli, même si tout le monde pourra l'aimer. Donc voilà, c'est Kiki la petite sorcière, Majo no Takubin en japonais. Et c'est vraiment un film qui a une place très particulière dans mon cœur. C'était mon Ghibli préféré quand je découvrais l'animation japonaise dans les années 90. Et je pense qu'il pourrait prendre cette place particulière dans votre cœur aussi. Donc je vous le recommande très chaleureusement. Guillaume, je t'ai pas demandé, mais tu l'as peut-être vu aussi.
Ah non, alors c'est un style de cinéma, le cinéma d'animation que je connais extrêmement peu, et ça fait des années, voire des décennies, que je me dis qu'il faudrait que je m'y mette, et je m'y suis toujours pas mis, mais je compte bien le faire. J'ai pas d'a priori, mais alors j'y connais absolument rien du tout.
Mais il faut écouter Positron.
Bah moi je dirais ouais, peut-être commencer avec oui. Totoro. Alors ne pas avoir vu Totoro, au-delà de la question de l'animation japonaise, c'est un monument important du cinéma en général, quoi. C'est l'un des et c'est très représentatif de ce style, même si d'autres sont différents, mais je veux dire, c'est genre, si tu dois voir qu'un seul film d'animation japonaise, regarde Totoro parce qu'il faut l'avoir vu. C'est genre un classique, quoi. Donc
Ah, il y a le tombeau des Lucioles aussi.
Ouais, mais alors là, tu demandes aux gens de s'infliger une dépression.
Ouais, c'est pas le plus facile, c'est sûr.
Ouais, moi j'aime beaucoup le tombeau des Lucioles, mais fou, c'est dur, quoi. Faut avoir vraiment,
ouais,
faut
dur.
Pas être déprimé quand tu le lances, parce que. Ouais, le tombeau des Lucioles, peut-être qu'on le passera en recommandation un jour, tiens. Je vais peut-être te le voler. mais c'est vrai que c'est un petit peu dur quand même. Donc voilà, Kiki la petite sorcière, c'est ma recommandation. Marion, de quoi nous parles-tu?
Alors moi, je voulais vous parler d'un livre que j'ai pas complètement fini. Là, il me reste quelques dizaines de pages, je pense. C'est un livre qui traite de Elon Musk. Elon Musk, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Je pense qu'il n'y a pas de doute, Patrick, tu connais, tu en parles
bien
souvent
sûr, bien sûr.
Dans tes émissions. Donc, il a participé à PayPal, à Tesla, SpaceX et même SolarCity. Enfin, tout ce type de sociétés innovantes ou qui ont innové leur milieu par un moyen ou un autre. Et j'étais un petit peu pourquoi j'ai voulu lire un livre de biographie sur Elon Musk, c'est parce qu'en fait c'est un personnage qui m'intrigue un petit peu et j'avais du mal à me faire une idée sur la personne et sur son caractère, sa manière de travailler. On entend un peu tout et n'importe quoi. On l'a comparé il paraît qu'il a inspiré Iron Man au moment des films et on apprend dans le livre que oui, mais dans une certaine mesure.
Tony Stark voilà, donc en fait. Tony Stark.
Tout à fait, Tony Stark. Oui, tout à fait. Tony Stark avec ce côté exubérant de milliardaire dans la technologie et qui bidouille un petit peu. Donc ce côté bidouille, technologie, milliardaire, évidemment, ça lui colle. Enfin, c'est ça, hein, c'est lui. Et donc on se rapproche un petit peu de son mode de vie. Mais après tout l'aspect exubérant, alcool, nana, au côté bourreau des cœurs, etc. C'est a priori, dans le livre, ça ne colle pas du tout au personnage d'Elon Musk. Moi, j'avais eu l'impression d'avoir quelqu'un de beaucoup plus timide et un peu plus réservé lorsque j'avais vu des conférences qu'il avait présentées il y a quelques années de ça. Maintenant, il est beaucoup plus à l'aise, mais il y a quelques années, il était quand même un peu plus timide. Et donc, on découvre vraiment à travers ce livre. Donc, c'est un livre de... Alors, je vais quand même dire le titre. Elon Musk, Tesla, PayPal, SpaceX, l'entrepreneur qui va changer le monde, écrit par Ashley Vance. Et il est sorti, je crois, en France, il est sorti en début d'année, enfin c'est assez récent, en février 2016, donc vous voyez c'est très actuel. Et donc on apprend un petit peu tout sur son parcours, de son enfance en Afrique du Sud, sur ses premiers rêves, sa passion pour les livres où il dévorait les encyclopédies, à son arrivée au Canada, son aventure avec PayPal, SpaceX et Tesla. Là j'ai pas lu la fin, donc j'ai pas encore vu s'il parlait d'Hyperloop et ce genre de projet qu'on entend dernièrement. Mais c'est assez passionnant de voir comment la volonté d'un homme arrive à monopoliser, enfin pas monopoliser, mais motiver tout un groupe de personnes pour travailler à un objectif. Donc on sait qu'il a l'objectif d'envoyer des hommes sur Mars pour coloniser Mars. Il avait dit qu'il voulait mourir sur Mars, pas en atterrissant sur Mars, mais en vivant là-bas.
A priori, c'est plutôt une bonne manière d'approcher le problème, oui, effectivement.
Ouais, voilà, c'est pas mal. Et surtout, il a une manière d'aborder les problèmes et les domaines dans lesquels il travaille, c'est-à-dire que ce soit le paiement, l'espace ou les voitures électriques. Il va pas s'arrêter aux conventions qui existent à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il va remettre en cause pour voir s'il peut faire quelque chose de plus performant en travaillant même par les bases. Et donc, il va souvent internaliser pas mal de la production. Toutes les petites pièces, il va éviter de les faire à l'étranger, etc. Éviter de multiplier les prestataires. Et donc, ça permet de revoir le fonctionnement de ces entreprises. Et alors, il y a une phrase, je vais juste vous lire une phrase du livre rapidement, qui je trouve est assez intéressante, et qui le décrit lui. L'expérience, pour lui, est presque binaire. Soit vous essayez de faire quelque chose de spectaculaire sans compromis, soit vous n'essayez pas. Et si vous n'essayez pas, Musk considère que vous avez échoué. Cette philosophie peut paraître déraisonnable ou délirante à un observateur extérieur, mais elle fonctionne pour Musk et son entourage. Elle les pousse vers leurs limites. Donc voilà, c'était l'extrait que je voulais vous lire.
Est-ce que c'est livre de motivation carrément, genre tu sais ces trucs américains où tu vas lire sur à quelqu'un et puis tu vas tout à coup te retrouver à comprendre le sens de la vie et que vraiment tu sais ce genre de truc quoi?
Alors, moi, j'ai pas trouvé que c'était un livre d'inspiration sur un mode de vie, parce qu'il n'encourage pas hein, à copier le caractère de Musk, parce qu'il le dépeint aussi, il dépeint aussi ses mauvais côtés, son caractère difficile à gérer. Là, ça peut faire penser à Steve Jobs, évidemment. Mais plutôt, ça montre que là où c'est motivant, c'est lorsqu'on a la motivation nécessaire, rien n'est impossible. Et c'est là où Elon Musk a su faire rêver, nous refaire rêver en nous intéressant de nouveau à l'espace, en nous faisant envie avec une voiture électrique, ce qui quand même, on se rappelle, il y a quelques années, c'était quand même, les voitures électriques, c'était quand même pas ce qui fait rêver, quoi. Et là, on arrive avec le modèle S et je crois le modèle X là qui va sortir ou qui dont il parle à avoir des voitures séduisantes, performantes et qui séduisent le public vraiment au-delà de la notion d'électricité.
Oui, il a fait repenser, enfin dans plein d'industries. En fait, ce qui est magique avec Musk et ce qui fait qu'il fascine tellement, c'est qu'il a par la simple force de sa volonté. Et de son argent, bien sûr, mais de ça, il y en a plein qui ont de l'argent, mais qui font pas ça. C'est qu'il a réussi à rendre crédible et excitant des trucs qui sont presque sortis de nulle part et à les rendre réels, quoi. C'est pas juste qu'il parle de projet, c'est qu'au bout de quelques années, quand il parle d'un truc et qu'il se lance dans un truc, eh ben ça se concrétise. Et ça, effectivement, c'est hyper inspirant, c'est magique, quoi.
Oui, et ce qui est assez marrant dans le livre, c'est qu'on voit qu'il est un petit peu, enfin, il est inconscient. Il y a une part d'inconscience hein, de toute façon dans sa manière de gérer ses entreprises, où il remet en jeu la majeure partie de sa fortune. Donc, il prend des énormes risques personnels d'un côté, et de l'autre, il va les pousser jusqu'à la faillite, jusqu'à ce qu'il y ait un heureux hasard, parce qu'il y a quand même un sacré concours de circonstances qui est décrit dans le livre pour chacune de ces sociétés d'ailleurs, et qui fait que, c'était un bon karma, un bon timing à ce moment-là, et il a réussi à sauver, pas lui, mais les conditions ont fait que la société a pris son essor et a pu fonctionner jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce qui est assez dingue, c'est qu'il y a quelques années, on se disait, oui, c'est un beau parleur, Elon Musk, il nous parle de ses projets d'aller sur Mars, de faire des voitures électriques séduisantes, etc., etc., mais pour l'instant, il ne concrétise rien. Mais là, on ne peut plus dire ça aujourd'hui. Parce qu'on a un moment donné où, oui, il a réussi à concrétiser des choses, à concrétiser des lancements successifs et répétitifs de fusées et à les refaire atterrir sur Terre, parce que l'enjeu, c'est de pouvoir réutiliser les fusées pour SpaceX. Donc, c'était assez intéressant. Et donc, le livre est vraiment passionnant. Il est écrit, c'est pas de la grande littérature, mais c'est très, très facile à lire. On passe un bon moment. Et donc, ça s'attarde chaque chapitre sur son enfance, sur PayPal, sur Tesla, SpaceX, etc. Donc là, je ne l'ai pas complètement fini. J'espère qu'on va en savoir plus sur ses projets futurs. Mais voilà. Et donc, il mène de front ses aventures dans ses différentes sociétés, notamment SpaceX et Tesla, où ils ont une histoire assez en parallèle. Donc, c'est assez intéressant. Mais voilà, je vous le conseille vraiment, c'est si vous souhaitez en savoir plus et même vous montrer, vous redonner confiance dans le fait que votre motivation peut, peut accomplir des choses, allez lire ce livre, ça motive et c'est assez fascinant.
D'accord, super. Alors, ouais.
Justement, j'avais prévu de le lire, donc ça tombe bien. Et ça m'attire énormément, mais à chaque fois, ce que je me pose comme question par rapport à ce type de livre, alors j'ai des biographies comme ça, j'en ai lu quelques-unes, par exemple celle de Mark Zuckerberg et celle de Julian Assange. Et ce que je me demande dans ces cas-là, c'est quel est le rapport de l'auteur du livre à la personne dont il parle dans le livre. Parce que souvent, il y a des... par exemple, pour le livre de Mark Zuckerberg n'est pas du tout d'accord avec ce qui est écrit dedans, et pour Julian Assange, il n'est pas du tout d'accord avec ce qui est écrit dedans. Et je me demandais quel était le rapport de l'auteur avec Elon Musk. Est-ce que Elon Musk a un avis sur le livre?
Alors, dans le livre, il décrit déjà, le journaliste décrit son approche d'Elon Musk, comme quoi il avait pour projet d'écrire un livre sur lui, et Musk au départ n'était pas d'accord. Il ne voulait pas qu'on écrive un livre sur lui. Comme le journaliste a continué son projet sans se laisser démonter, il a commencé à contacter son entourage, Musk a cédé un petit peu et a accepté de le rencontrer, et au fur et à mesure, il a pu passer un peu plus de temps avec lui, notamment lorsqu'il a eu du succès avec Tesla et SpaceX, où Elon Musk s'est ouvert un petit peu plus aux journalistes. Et ça, ils le décrivent dans le livre. Après, j'ai entendu dire que Elon Musk n'était pas content d'une biographie. Mais est-ce que ça concerne celle-ci? Est-ce que c'est la seule qui existe? Ça, je ne peux pas te le confirmer. Mais j'ai entendu qu'il était à un moment donné mécontent d'une biographie qui avait été faite sur lui, mais je ne peux pas te dire. D'accord. Si ça concerne celle-ci. Ou pas.
Souvent, avec le recul, c'est vrai que lorsqu'on regarde le rapport de l'auteur à la personne qu'il décrit dans le livre, on se rend compte que la personne dont il est question dans le livre n'aime pas la biographie, mais pas pour de bonnes raisons, pour de mauvaises. C'est-à-dire que c'est parce qu'on en a trop dit sur lui ou parce qu'on est rentré un petit peu trop dans l'intimité. Donc c'est vrai que ça reste de toute façon des livres vraiment super passionnants parce que bon, y a un côté un petit peu voyeur. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un... Ça, il fait partie des gens dont je suis complètement admiratif. Et c'est vrai que bah, on a tous vu, enfin je pense, moi j'avais vu la fusée SpaceX qui se repose directement sur sa base.
Ouais,
il y avait
magique,
une mire en plein milieu de la mer et on voit, il y a même une caméra embarquée au niveau de la fusée et on voit la fusée faire un arc de cercle dans le ciel et revenir sur la base pile au niveau de la croix. Et là on se dit mais ça engendre tellement de choses pour le futur que c'est énorme.
Ouais,
et pourtant,
c'est vraiment ce type-là qui en est à l'origine. Donc, à la limite, moi, je dirais la relation qu'il y a entre l'auteur et le sujet, c'est presque mieux s'ils s'entendent pas, tu vois. Faut pas que ça soit un livre qui soit à charge non plus, parce que c'est ridicule, ça a pas de sens, mais... C'est presque mieux s'ils seront pas potes, tu vois, s'ils se connaissent un tout petit peu, mais, et là, ça a l'air d'être à peu près le cas, c'est pas qu'ils étaient potes depuis longtemps, ou même au début, il était pas pour, donc, enfin bon, bref, à lire et vous ferez une idée par vous-même. Guillaume, de quoi nous parles-tu?
Alors, je voudrais vous parler de Nightwish. Alors, Nightwish, c'est un groupe de métal finlandais qui me tient, c'est un groupe voilà de métal finlandais qui me tient énormément à cœur parce qu'avec avec un groupe d'amis on s'occupe du fan club français depuis maintenant 15 ans, parce qu'on est en 2016, oui, donc 15 ans. Voilà, et ce groupe est très connu en Finlande, très connu de la plupart des gens qui écoutent un peu de métal et très peu connu du grand public en dehors de Finlande. Alors, il y a énormément de choses à dire, il a fallu que je compresse le plus possible, parce qu'en plus, je suis focus sur ce groupe depuis 15 ans, alors j'en écoute plein d'autres, mais celui-là en particulier me bouleverse, disons, beaucoup plus que les autres. Alors déjà, faire une petite note sur ce qu'est le métal symphonique, c'est un métal qui s'inspire des musiques de films. C'est essentiellement ça le principe du métal symphonique. Par exemple, le compositeur Nightwish est un fan de Hans Zimmer, qui a fait les musiques de Gladiator, Pirates des Caraïbes, et je voulais dire voilà que également il aime beaucoup un compositeur qui s'appelle Michael Nyman, qui a fait la leçon de piano comme musique de film. Donc le métal symphonique, c'est une musique qui s'inspire de ça, qui s'inspire, c'est très mélodique, mais il y a des guitares lourdes et une batterie puissante. C'est accompagné d'un chant féminin et d'un chant masculin très puissant également. Le chant féminin, c'est pas à chaque fois, mais il se trouve que là, avec Nightwish, c'est un chant féminin. Et on a un orchestre symphonique de grande ampleur pour réaliser les enregistrements en studio. Donc maintenant, revenons donc à Nightwish en particulier. Leur dernier album s'appelle Endless Forms Most Beautiful. C'est un album qui tourne en grande partie autour de la même thématique. Alors c'est un album assez conséquent, il fait 80 minutes, et il y est question de la création de la Terre et de l'apparition de la vie. Vraiment, toutes les paroles tournent autour de ça. Mais il faut admettre quand même que les paroles sont peu évidentes à saisir, parce qu'en fait, le compositeur, qui écrit également les paroles, qui s'appelle Tuomas Holopainen, qui est quand même assez connu, bon, pas en dehors de la Finlande, mais écrit des paroles qui sont... très imagé, avec énormément de métaphores. Donc quand on
tu sais, on j'ai presque envie que tu nous fasses écouter un petit peu de quoi il s'agit là, si tu
ah voilà peux... pour se rendre compte directement.
Ouais ouais bah oui vas-y parce que ça fait un moment que tu m'en parles de ce groupe donc.
Alors attendez, hop, on va essayer de faire ça proprement. Il faudrait juste alors, attendez, je vais juste this ancient unseen stream. Alors, attendez juste. Juste.
Vas-y, vas-y, prends ton temps.
Hop, là, voilà, on va aller par là, et hop. Bon, là, c'est un peu...
Bah, disons que quand tu as dit du métal symphonique, c'est pas forcément à ça que je m'attendais, quoi.
Music of the
Alors voilà pour. Alors je me rends pas compte comment. Comme c'est une musique qui est très riche, qui a énormément de petits détails, qui peut s'écouter 30 fois et puis la 30e fois on entend encore des détails. C'est vrai que là, balancé comme ça au micro de mon casque, ça peut paraître très brut de décoffrage.
Je t'avoue que oui, c'est un petit peu l'impression que j'ai eue quand même.
Oui, mais c'est normal, le métal ça sature énormément, donc ouais, là ouais. Ça rend pas honneur, je pense.
Parce que là, dans l'extrait que je t'ai passé, il y a un orchestre symphonique derrière qu'on entend énormément, il y a les batteries par-dessus, on est d'accord, il y a la guitare saturée par-dessus aussi, mais il y a un orchestre symphonique qu'on entend vraiment avec énormément de détails.
Ouais, bah, je te confirme que là, on l'entendait pas, en fait, hein, pas du tout.
Je vais essayer de mettre un morceau, je vais prendre un autre exemple. Mais je voulais juste pour passer un peu plus sur l'histoire du groupe, très rapidement, en fait, il se résume en trois périodes, parce qu'il y a eu trois chanteuses différentes, et qu'à chaque fois, ça a apporté quelque chose de très spécifique et de différent. La première chanteuse s'appelle Tarja Turunen, c'était une chanteuse de lyrique opéra. Donc là, pour le coup, c'était carrément du métal avec une chanteuse d'opéra qui chantait par-dessus. C'était encore un style très particulier qu'il faut écouter pour se rendre compte de la sensation que ça procure. La seconde chanteuse, Annette Olson, elle avait un chant beaucoup plus pop, donc pour le coup beaucoup plus accessible immédiatement. Et la troisième chanteuse, elle est hollandaise, elle s'appelle Floriansen. C'est un condensé idéal des deux précédentes chanteuses parce qu'elle maîtrise tout type de chant et elle est capable de varier de manière extrêmement en étant extrêmement à l'aise. Donc voilà, je voulais mettre un autre. Je vais mettre un autre extrait. Là, le premier extrait qu'on avait écouté, c'est Shudder Before the Beautiful. Et là, le nouvel extrait que je vais mettre, c'est Elan. C'est le premier single du dernier album. Beaucoup plus accessible. Alors, je vais mettre direct à l'air.
C'est marrant, ça me fait penser à l'Eurovision. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais
bon. Alors,
merde, je sens que j'ai dit une connerie. Pardon. Mais tu sais, j'imagine tout à fait la nana au milieu de la scène avec une super longue robe et puis la machine avant qui se déclare. Pardon, je suis désolé. C'est
non, mais en plus, tu es pas complètement dans le faux parce que Nightwish a un rapport assez d'ailleurs toute la Finlande il me semble a un rapport très très proche avec l'Eurovision.
Ah oui, complètement.
Lorsque
oui.
Nightwish en 2001 a tenté de participer à l'Eurovision. Ils ont échoué en demi-finale
Quoi.
Voilà, ils y sont allés avec un morceau qui était très accessible pour le coup. Ils l'avaient bien épuré, ils avaient bien diminué la batterie, diminué les guitares. Et effectivement, ça pouvait y aller. Parce qu'en plus, il me semble que c'est un pays où on est très attaché à l'opéra. Et comme la chanteuse de l'époque, c'était une chanteuse d'opéra, bah, il y avait un lien qui se faisait et ça fonctionnait assez bien.
D'accord.
Bon, là où je veux aller, quand même, pour finir, Nightwish, c'est un phénomène en Finlande, au même titre que le métal est un phénomène à part entière en Finlande. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque la première chanteuse a été évincée du groupe en 2005, la nouvelle a fait un tel scandale que ça faisait la couverture des journaux, le groupe a même été obligé de s'expliquer à la télévision finlandaise. Ça prend des proportions énormes. C'est un groupe qui est vraiment très connu.
D'accord.
Nightwish est devenu une sorte d'institution en Finlande. Pour faire une analogie, c'est aussi connu et apprécié que Jean-Jacques Goldman ou Johnny Hallyday en France. C'est-à-dire que quand ils sortent un album, toute la ville d'Helsinki se met aux couleurs du groupe. Des dédicaces, il y a même des représentations au cinéma de documentaires où le compositeur est interviewé. Ça prend des proportions vraiment énormes. Et tant et si bien que, en fait, Nightwish, c'est le groupe finlandais, tout type de musique confondu, le plus connu à l'étranger, et également le plus connu en Finlande, parce que c'est ceux qui vendent le plus de disques en Finlande. Donc il y a plein de petites anecdotes comme ça qui font qu'on se rend compte qu'en Finlande, c'est une institution, c'est quelque chose d'extrêmement connu, ancré. Moi, je suis déjà allé voir Nightwish en concert dans la grande salle Hardball Arena de d'Helsinki. On voit des papis et des mamies, parce que ça fait partie de la culture populaire. Le métal marrant, est tellement ancré dans la culture populaire qu'on ouais. voit vraiment 3-4 générations de gens dans la salle. On voit des tout petits également, on voit des gens, des enfants de 5-6 ans, aussi bien des grands-parents de 70-80 ans.
D'accord. Bon, bah écoute, intéressant, effectivement, si vous intéressez au métal et que... je pense que c'est quand même à recommander pour... Tu dis c'est très accessible en Finlande, mais peut-être pour nos contrées, c'est à recommander quand même aux fans de ce genre ou...
Justement, j'ai un peu hésité, effectivement. Donc, Nightwish, je le mettrais plutôt à destination des fans. Le métal symphonique en général, je le mettrais vraiment pour tous. Et juste une dernière information, pour ceux qui aimeraient s'y mettre ou juste se rendre compte de ce que c'est, ils peuvent essayer de commencer par des groupes qui sont un petit peu plus faciles d'accès. J'en citerai deux. Il y a deux groupes hollandais. Le premier s'appelle Within Temptation et le second s'appelle D-Lane. C'est des groupes de métal symphonique qui sont très accessibles, qui sont beaucoup plus... Enfin voilà, ils sont beaucoup plus...
Pardon, le deuxième, c'est D-Lay ou D-Lane ?
D-Lane, ça s'écrit D-E-L-A-I-N.
D'accord, ok. Ben, je mettrai ça dans les notes également.
Voilà, et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Nightwish, il y a le site nightwish.fr, voilà.
Bien sûr, évidemment,
je me suis bien
évidemment.
Un petit peu.
Non, mais bien sûr.
Ils sont voilà. pas passés ils sont pas passés à Paris récemment ou
Voilà, ils sont passés à Paris en novembre, fin novembre, ils étaient à Paris à Bercy, donc ils remplissent Bercy assez facilement. C'est aussi ça qui est magique avec ce type de métal là. Puis plein d'autres types de métal, évidemment, mais ils peuvent remplir une salle de 15 000 personnes avec une médiatisation quasi nulle.
Mmh. Ouais, c'est
et
vrai que...
c'est ce que j'aime beaucoup également, c'est que c'est de la sous-culture, c'est de la culture populaire, mais accessible à finalement assez peu de monde, mais au final, ça converge vers la salle et on voit vraiment énormément de gens qui sont là alors qu'on n'en entend jamais parler dans les médias, en tout cas français.
D'accord. Bon, bah écoute, merci beaucoup. C'est donc Nightwish et c'est disponible un petit peu partout. C'est de la... comment t'appeler la, du métal symphonique.
Voilà, du métal symphonique.
Très bien, merci beaucoup. Et donc, j'aurai les dans les notes de l'émission les noms des autres groupes qui sont encore un petit peu plus accessibles. Bah merci à tous les deux. Avant de se quitter, on va quand même vous donner l'occasion de nous dire où on peut vous retrouver sur internet. Et bah justement Guillaume, puisque tu en parlais, tu peux nous dire encore une fois le nom du site de fans français de Nightwish et puis tout ce que tu fais sur internet.
Alors on peut me retrouver donc avec une bande de copains sur nightwish.fr, on est 4 à gérer ça, on a également un forum, donc n'hésitez pas à venir, on sera ravis de vous faire découvrir le groupe.
Magnifique.
Ah et puis sinon il y a également statosphere.fr, mais là on est un petit peu en dehors du...
mais si, statosphere.fr aussi bien sûr. Merci beaucoup, et donc Marion...
Alors, pour rester dans la tech, vous pouvez me retrouver sur naotech.tv, l'émission TechScope tous les matins à 8h sur Periscope. Sinon, pour la musique, vous pouvez me retrouver sur wildsession.fr et le Twitter Aizea Design.
Magnifique, le Twitter sera dans les notes de l'émission, évidemment. Et à propos de TechScope, je vois que Jérôme a commencé le TechScope du jour et il a commencé, je regardais sur Twitter, il y avait des images d'Overwatch. De quoi ? Il a commencé à jouer à Overwatch. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas compris. Il faudra que j'aille lui demander.
Non, je te confirme qu'il a pas commencé à jouer, mais ça doit être une news en rapport.
Passé ? D'accord, ok. bon, pour ma part, c'est Notepatrick sur Twitter et Facebook, et vous pouvez retrouver bien sûr cette émission et beaucoup d'autres sur frenchspin.fr. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on aura un épisode du rendez-vous jeu spécial E3. Le 3, évidemment, c'est la grande fête du jeu vidéo à Los Angeles tous les ans, le plus grand salon de jeux vidéo. Donc, si le jeu vidéo vous intéresse un petit peu, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil, ou un coup d'oreille plutôt, au rendez-vous jeu sur frenchspin.fr. Et n'oubliez pas non plus le document qui réunit tous les positrons depuis le début du lancement de l'émission, maintenu par Guillaume Vendée, toujours sur bit.ly/allpositrons en au pluriel, allpositrons, qui est donc maintenu par Guillaume Vendée, qu'on remercie beaucoup au passage. Il est toujours à jour, le document, donc un grand merci à lui. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Positron avec encore 3 trucs cool. On tiendra plus dans les 20 minutes ce coup-là. Allez, à dans 2 semaines. Ciao.
À bientôt.
À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.